Vous êtes dans l'émission Panthère Rouge sur Radio Campus 93.3. Et c'est parti pour une heure de sujets politiques et sociaux. Aujourd'hui, c'est la dernière de la saison et contrairement à d'autres stars de la radio moins chanceuses que nous continuerons à sévir sur les ondes à la rentrée en traitant de l'actualité politique puisqu'aucune injonction au silence ne nous a pour l'instant été adressée par une quelconque autorité. C'est le privilège des radios associatives. Vive les radios libres! Pourtant, c'est quand même un petit peu vexant. Nous aurions bien aimé pouvoir réunir des foules d'auditeurs devant les studios de Radio Campus pour manifester leur soutien à notre émission. Ça nous aurait un peu changé des hordes de supporters de l'ASM qui campaient sous nos fenêtres au lendemain de la finale. Bref, mais n'ayant aucune chance de nous faire virer en parlant de l'accaparement des terres dans le monde, du mouvement social en Grèce ou bien encore de la réforme des retraites, et convaincu que l'usage du second degré reste inaccessible à ceux que nous écornons parfois dans nos chroniques et nos éditos, nous avons décidé pour l'an prochain de frapper fort en passant directement à l'invective. Ce sera bien plus porteur. D'ici là, nous sommes certains que les réformes votées cet été vont encore nous donner du grain à moudre et fournir matière à quelques sujets intéressants pour les émissions de la rentrée. Au sommaire d'aujourd'hui, nous allons parler d'abord de santé. En nous intéressant à un mouvement de grève qui a été assez peu médiatisé, qui est la grève des personnels des cliniques privées. Oui, vous savez, ces cliniques privées dont on pouvait entendre dans une campagne de publicité récente qu'elles coûtaient moins cher à la Sécu que l'hôpital public. Campagne de pub assez hallucinante, qui omettait simplement de préciser que l'hôpital public, lui, ne choisit pas ses patients et reste, mais pour combien de temps ? Le seul lieu de soins à prendre en charge les pathologies les moins rentables et les patients les plus démunis. Et bien voilà que la colère gronde aussi chez les salariés de ces établissements modèles. Et nous aurons en ligne Christophe, Christophe qui est délégué syndical d'une clinique de l'agglomération clermontoise et avec qui nous parlerons bien des enjeux de cette grève et puis aussi des transformations du secteur de l'hospitalisation privée qui est de plus en plus la propriété des fonds d'investissement. Puis ensuite, nous avons concocté, bande de chanceux, une séquence histoire au comptoir, enfin plutôt au téléphone, hein, puisque c'est l'historien Johan Chapoutot qui s'est gentiment collé à l'exercice de l'entretien téléphonique. Alors, Johan Chapoutot est spécialiste de l'Allemagne nazie et auteur d'un petit livre passionnant qui s'appelle « Le meurtre de Weimar », petit livre dont l'intrigue est celle de la mort d'une démocratie, de la République allemande, succombant à l'accession des nazis au pouvoir. Alors nous parlerons de cela avec lui. écoutez Panthère Rouge sur Radio Campus 93.3. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grève des personnels des cliniques privées avec Lise. Bonjour Lise.
Bonjour Cécile, bonjour les auditeurs.
Alors, à l'heure où le gouvernement décide de faire un plan d'économie drastique en restructurant l'hôpital public, toi, tu t'es intéressée aux cliniques privées.
Voilà, et plus spécialement à leur fonctionnement interne, leur relation avec les salariés et puis leur position dans les jeux financiers spéculatifs. Et donc, on a avec nous Christophe par téléphone. Christophe qui est délégué syndical dans une clinique de l'agglomération. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, le 24 mai, une assemblée générale des salariés des cliniques privées de Montpellier vote la grève. C'est le début d'une grève qui se révélera être la plus longue et la plus importante du secteur de l'hospitalisation privée. Mais rien d'étonnant à cela, puisque ça faisait un moment que la colère grondait. Depuis plusieurs années, la valeur du point n'augmentait pas. Et le point, donc, c'est le coefficient par lequel on multiplie ton avancement pour obtenir ton salaire. Et étant donné l'inflation, le fait de bloquer le point revient en fait à une réduction de salaire. Et donc, comme par ailleurs, les conditions de travail sont pénibles, ça a été trop et la grève a été déclenchée. Donc, 10% d'augmentation du point, c'était la revendication qui a rassemblé les salariés des cliniques de Montpellier et bientôt d'ailleurs. En effet, le 10 juin, la CGT lance un appel à la grève nationale. Le mouvement se répand dans plusieurs villes, notamment Clermont. Et donc, ma première question, Christophe, c'est comment ça a débuté à Clermont ? Qui s'est mis en grève ? Comment ça s'est organisé ?
Ça s'est organisé, en fait, comme tu l'as dit, suite à un appel de la CGT. Donc, nous, ça faisait un petit moment qu'on regardait ce qui se passait à Montpellier. Et donc, dès qu'il y a eu appel de la CGT, tous les délégués syndicaux se sont réunis, ont discuté un petit peu avec leur personnel. Hein, la revendication était la même, hein, puisque les conditions de travail sont les mêmes un petit peu partout en France. Donc, on n'a pas eu de mal à mobiliser les gens pour partir ensemble. Donc, on s'est tous regroupés, donc groupes confondus, hein, tous les groupes de Clermont. Et on est tous partis en même temps dans le mouvement.
Mais justement, avec les collègues, en fait, c'est... vous avez fait des assemblées et tout le monde a voté la grève ou ça a été quand même des discussions
On a discuté en premier entre nous, donc entre délégués, à savoir quelles étaient les conditions de travail dans chaque établissement. On s'est rendu compte en fait que la problématique était la même. Donc ensuite, après, il y a eu des discussions à l'intérieur même des entreprises, hein, délégués par délégués, entreprise par entreprise. Et tout le monde était motivé pour aller justement exprimer un petit peu son point de vue dans la rue. Donc en fait, on s'est tous réunis, on s'était donné rendez-vous à un endroit et on s'est tous réunis à cet endroit-là et les salariés étaient quand même relativement présents.
D'accord, donc il n'y a pas eu de difficulté à faire une grève conjointe avec des établissements différents ayant des patrons différents ?
Il n'y a eu aucun problème sur ce mouvement-là en fait, hein, vu que la valeur du point est la même pour tout le monde, pour tous les gens qui travaillent dans la santé privée et que les conditions de travail sont les mêmes approximativement dans tous les groupes, le combat était le même, hein, donc en fait on a réussi à se réunir entre nous, et ce qui a fait justement que le mouvement a été quand même assez suivi sur Clermont et un peu d'ampleur quand même.
D'accord, donc les conditions étaient les mêmes, mais par contre vous avez des patrons différents, alors est-ce que tu peux expliquer qui sont vos patrons ?
Donc sur Clermont, il y avait deux groupes hein, qui étaient concernés par le mouvement, donc il y avait un groupe qui s'appelle Vitalia, donc qui est un groupe géré par un fonds d'investissement qui s'appelle Blackstone, hein. Donc voilà, et l'autre groupe c'était donc pour le pôle santé république, c'est le groupe Medipartner qui est géré par un fonds d'investissement qui s'appelle LBO France. Donc voilà la différence en fait essentiellement dans le nom, hein, sinon la pratique est approximativement la même.
Ce sont des fonds d'investissement, ça fait longtemps que les fonds d'investissement sont propriétaires des cliniques privées ?
On peut dire que, de ma connaissance, nous, ça fait 5 ans qu'on est, en gros, dirigé par des fonds de pension ou des fonds d'investissement. Ça a commencé tout petit, et puis maintenant, ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc, une grande partie du secteur privé, à l'heure actuelle, maintenant, est gérée par des fonds d'investissement. Et même si c'est des regroupements locaux, la méthode de gestion est, d'une manière ou d'une autre façon, la même qui est employée approximativement partout.
Alors tu disais, de par ta connaissance, c'est parce que les choses sont opaques en fait, vous savez pas exactement ou...
Disons que moi j'ai pas de recul vraiment sur plusieurs années, hein, parce que moi je parle pour mon groupe à moi, nous on était, c'était de l'actionnariat local, et on a vu les groupes, les fonds de pension arrivaient au rachat suivant. Et là, on est rentré directement dans la politique des fonds d'investissement. Donc maintenant, je pense qu'on n'en sortira plus. Et il existait déjà des groupes comme la Générale de Santé, où là, les fonds d'investissement étaient déjà rentrés déjà depuis longtemps, oui.
Et donc, alors, tu disais, la gestion, c'est la même, mais c'est quoi en fait la...
La gestion, c'est on ferme tous les robinets financiers pour faire remonter le plus d'argent possible. Donc en fait, on tape sur les commandes, on tape sur l'entretien du matériel et ensuite après, on tape sur les salaires des salariés pour faire le plus possible d'économies, donc dans le but de faire remonter quand même pas mal de dividendes aux actionnaires.
D'accord. Et alors, comment tu expliques que les fonds d'investissement s'installent durablement en fait?
Je pense que les fonds d'investissement s'installent dans la santé privée en France parce que le plus gros financier de la santé, c'est la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, malgré son énorme déficit, continue toujours à payer la facture. Donc en fait, ils sont sûrs d'être payés pour au moins 60% des actes effectués. Donc pour eux, c'est une. Il n'y a pas vraiment de problème de trésorerie.
C'est une source de revenus sûre, quoi.
Ce sont des sources de revenus sûres, oui.
Bon, alors, comment se sont déroulées vos négociations?
Les négociations étaient un petit peu tendues, hein, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route, à démarrer. Je pense qu'ils n'ont pas pris l'ampleur vraiment de la grogne. Ils ont pensé qu'on allait être en grève le fameux jeudi 10, hein, puisque l'appel avait été lancé le 10, et peut-être le vendredi pour aller tirer jusqu'au week-end. Hein. Et ensuite, après, quand on est arrivé au lundi, qu'on était toujours en grève, là, par contre, les choses ont commencé à se compliquer. Donc, pour eux, en l'occurrence, les négociations ont commencé par là, ça a été un petit peu agité. Il y avait des négociations qui étaient en cours à Paris sur la valeur du point, qui n'ont rien donné du tout, avoir même des provocations, c'est-à-dire 1% d'augmentation, alors que la recommandation était de 10%. Donc les choses se sont un petit peu envenimées, puisque les gens en ont quand même fortement marre. Donc ce qui a retardé un petit peu toutes les négociations.
Je vais juste rappeler que vous avez commencé la grève le 10 juin et vous l'avez arrêtée le 22.
Tout à fait, oui.
Donc ça faisait quand même 12 jours.
Ça fait 12 jours. Et puis, ça aurait pu continuer plus. La grève a été levée. Il n'y avait pas beaucoup de voix qui étaient de différence entre la continuité du mouvement et la reprise du travail. Donc en fait, ça aurait pu basculer très très bien de l'autre côté.
Et donc dans les négociations, qui sont vos interlocuteurs? C'est pas les fonds de pension directement, si?
Nos interlocuteurs en général sont, sur Clermont en tout cas, ont été. La direction régionale des groupes et pour Medipartner, la direction nationale. Le DRH national était présent sur la négociation Clermont-Ferrand.
Et alors, qu'avez-vous obtenu?
Ça a pas été, c'est pas bien brillant, mais enfin, il y a une petite avancée quand même. On a réussi à obtenir 50 euros d'augmentation brute par salarié à partir du mois de juillet et puis 25 euros au mois de juillet de l'année prochaine. Donc, sous quelques conditions donc diverses et variées.
Et pour le point
disons qu'il y a une augmentation de 0,5% d'augmentation du point qui sera retenue sur les 50 euros qu'on va nous donner. Donc on n'aura pas les 0,5 en plus. Ça sera un petit peu. Ça fait un petit peu maigre hein, sur un mouvement de 12 jours et surtout sur ce que réclamaient les salariés qui avaient quand même un besoin d'un signal fort justement de leur direction. Ça n'a pas été vraiment le cas.
Donc là, vous avez obtenu donc une augmentation de 0,5% du point, plus une augmentation de votre salaire, mais qui est majorée par l'augmentation du point, quoi.
Tout à fait. Alors les 0,5% d'augmentation du point ont été décidés à Paris.
D'accord. Voilà. Donc ça, c'est national.
Ça, c'est national, oui.
Mais alors, comment vous sentez-vous, vous, les salariés des cliniques privées, en cette fin de mouvement?
En cette fin de mouvement, ce qu'on retient... C'est surtout la solidarité qu'il y avait entre les salariés, même de groupes différents. Donc en fait, ça a créé un espèce de lien. Et je crois que ce lien sera porteur pour l'avenir, hein, puisque obligatoirement, quand on va retourner à la table des négociations, on sera tous en contact et donc on essaiera tous d'obtenir quand même la même avancée pour les salariés qui nous font confiance. Ensuite, après, la petite avancée financière, c'est que ça adoucit un petit peu les choses. Mais il y a quand même un grand sentiment d'inachevé sur ce conflit-là. c'est vrai qu'on serait peut-être resté un petit peu plus longtemps dans la rue, où tous les groupes dans toute la France seraient partis au même moment, il y aurait peut-être eu un mouvement, un impact encore un petit peu plus fort justement dans la presse nationale.
D'accord. Donc en fait, vous avez été surpris finalement du lien qu'il y a eu entre les différents salariés finalement. C'est ça que...
Oui, on a été surpris, enfin surpris, c'est peut-être pas le terme, mais on a été content surtout de voir que les salariés étaient d'accord entre eux, avaient le même objectif, avaient la même solidarité, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a été porteur, et je pense que c'est quelque chose qui a justement déstabilisé un petit peu la santé, notamment à l'ARS sur Clermont, c'est de voir que tout le monde était dans le même bateau, tout le monde avait la même pensée, tout le monde a les mêmes conditions de travail, et le jour où ça descend dans la rue, tout le monde va y aller en même temps.
Voilà. Donc, c'est chouette, parce qu'en fait, c'était pas du tout une évidence dans un secteur où c'est pas du tout la tradition de se mettre en grève.
C'est pas quelque chose d'habituel dans la santé privée, mais bon, vu que les conditions de travail commencent à devenir de plus en plus difficiles, sans parler des salaires, obligatoirement les gens maintenant, pour pouvoir réclamer, ils descendent dans la rue. Donc
c'est normal.
C'est vrai que ça va devenir quand même de plus en plus courant. Le mouvement qui est parti de Montpellier et s'est arrêté à Clermont, il continue à faire son chemin. Au jour d'aujourd'hui, il y a trois cliniques qui sont en grève dans le nord de la France. Il va y avoir l'été. Je pense que la rentrée du mois de septembre risque d'être extrêmement chaude dans ce secteur.
D'accord, donc c'est pas fini.
Non, c'est pas fini, non.
Ben, merci de nous avoir répondu alors que tu es bien occupé ce dimanche, puisqu'il y a une suite à la grève, l'organisation de concerts de soutien pour essayer de renflouer un peu les porte-monnaies des grévistes.
Tout à fait, il faut venir nombreux.
Alors c'est à la Maison du Peuple, les groupes c'est Tranche de Vie et Windsor, ça coûte 5€ minimum, donc c'est à 20h ce soir, et on invite bien sûr tous nos auditeurs à venir voir le concert, soutenir les grévistes, poursuivre la discussion peut-être avec des grévistes comme toi.
Ok.
Voilà, bonne continuation.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. l'émission Panthère Rouge jusqu'à 19h, que l'on peut écouter également sur le blog de l'émission audioblog.arteradio.com/Panthère Rouge. Et on retrouve Cécile qui nous a préparé une rubrique histoire. Alors Cécile, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'est cette rubrique ? Qui c'est que tu as interviewé ?
Alors, une petite rubrique histoire. Histoire au comptoir. J'ai interviewé l'historien Johan Chapoutot, qui est donc un jeune historien et qui a écrit un petit livre qui s'appelle Le meurtre de Weimar. Et un petit livre vraiment très intéressant parce que, en fait, sa problématique, c'est comment meurt une démocratie. Et donc, c'est la question, en fait, que je lui pose dans cet entretien téléphonique. Johan Chapoutot, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes historien, spécialiste de l'Allemagne nazie, et vous venez de publier un petit livre intitulé Le meurtre de Weimar, dans lequel vous éclairez ce moment où l'Allemagne, qui est une république, la République de Weimar, qui est donc une démocratie depuis 1919, succombe à l'arrivée des nazis au pouvoir. Et ce qui rend votre approche tout à fait intéressante et originale, c'est que vous entrez donc dans ce moment de la mort de la démocratie, non pas par le processus institutionnel, vous ne racontez pas comment est-ce que Hitler est nommé chancelier de la République, hein, mais vous entrez dans ce moment par un fait qui est l'assassinat d'un militant communiste par des SA dans la nuit du 9 au 10 août 1932, donc par des membres de la milice du parti nazi. Alors peut-être d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé lors de cette nuit dans un petit village de Silésie à l'est de l'Allemagne ?
Oui, alors cet assassinat d'un militant communiste par 5 SA s'est déroulé de nuit dans un gros bourg de Silésie. Dans la nuit du 9 au 10 août 1932, ça a été une expédition organisée hein, par les SA du lieu qui ont décidé d'aller rosser du communiste pour se divertir dans une soirée assez inoccupée. Ils se sont copieusement alcoolisés, ils ont fumé, ils ont passé une soirée entre eux et puis ensuite ils sont allés débusquer des militants communistes du bourg dans lequel ils résidaient un par un jusqu'à assassiner l'un d'entre eux, l'assassiner très sauvagement et très lâchement puisqu'ils l'ont tiré de son lit, ils l'ont piétiné à terre, ils lui ont infligé 27 plaies ouvertes, l'homme est mort non pas de la balle qu'il a reçue dans le poumon mais d'un écrasement de sa carotide et de sa pomme d'Adam à coups de botte, enfin bon, ça a été un assassinat d'une lâcheté, d'une brutalité inouïe. Ce qui est intéressant, c'est que cet assassinat se déroule dans un contexte particulier, celui de l'été 1932, en Allemagne, qui est un été électoral, puisqu'il y a eu des élections législatives le 31 juillet précédent, le 31 juillet 32, soit 9 jours avant les faits. Des élections qui ont été marquées par des violences considérables, puisqu'il y a eu une centaine de morts violentes au mois de juillet, dans le cadre d'affrontements entre communistes et nazis notamment. Et des élections qui ont été marquées par la victoire du parti nazi, qui est devenu désormais le premier parti représentant Reichstag. Mais malgré ce, le président Hindenburg n'a pas appelé Hitler, le chef du parti nazi, au pouvoir.
Et alors justement, ce climat de violence politique, qui peut nous surprendre, nous qui sommes habitués à la démocratie, ce climat, vous le restituez en analysant, par exemple, ce que les SA pouvaient lire dans la presse nazie à l'époque. Alors est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon cette violence est justifiée, sinon valorisée, encouragée par la rhétorique nationale-socialiste ?
Alors je me suis intéressé à la presse nazie parce que de fait c'est ce que les SA lisent. La SA, depuis le début de la crise économique, est devenue une organisation de resocialisation pour des gens qui sont en déshérence sociale, hein, qui sont au chômage, qui ont des difficultés économiques très, très, très fortes. La SA loge ces hommes, la SA les nourrit, et la SA les nourrit également intellectuellement, hein, puisqu'elle leur fournit des lectures sous la forme de la presse nazie. Il est intéressant de voir comment la presse nazie lit les événements, comment elle les présente, et elle les présente sous un jour très particulier, qui est le jour de la guerre, puisque la presse nazie accrédite l'idée qu'il y a une guerre continuelle entre l'Allemagne et l'anti-Allemagne. Hein. L'Allemagne d'un côté représentée par les forces nationalistes et conservatrices, et de l'autre l'anti-Allemagne représentée par
représenté par les forces de gauche et par tout ce qui ressemble de près ou de loin à un juif ou à un franc-maçon. Le jour de la guerre, donc, mais également le jour de la biologie, puisque cette guerre entre l'Allemagne et l'anti-Allemagne est une guerre de race.
Dans votre livre, on suit vraiment ces... Donc c'est ça, c'est vraiment, fait vraiment une histoire à hauteur d'homme, si je puis dire.
Oui.
Et alors justement, qui sont ces SA qui sont justement abreuvés par ces idées de guerre biologique?
Les SA qui figurent dans mon livre et dans ce fait divers qui est devenu un événement national, hein, qui est l'assassinat du mineur communiste Karl Pitzour à Potempa, ce sont des gens modestes. Hein. Vous avez un ancien fonctionnaire donc à la retraite, vous avez également un électricien, vous avez des mineurs, puisque l'industrie des mines est très, très importante et est représentée en Silésie. Donc ce sont des gens qui sont touchés très violemment par la crise économique et qui, encore une fois, trouvent dans les rangs de la SA non seulement une famille, une nouvelle famille, un uniforme, un emploi du temps, puisque désormais ils ne sont plus inoccupés, il faut s'entraîner, il faut défiler, il faut assister à des cours d'endoctrinement idéologique, ils sont logés, ils sont nourris, et ils ont désormais à nouveau un sens à leur vie, hein, puisque on leur offre clé en main une lecture de l'actualité, une lecture de l'histoire et une prospective du futur qui est très solidement chevillé, hein, et très solidement attaché à des concepts très simples, hein, qui sont les races, la hiérarchie des races et le combat des races.
Et alors donc ces assassins vont être condamnés, hein, donc 5 condamnations à mort sont prononcées. Et vous montrez dans votre livre que ce verdict, eh bien, infléchit, hein, la stratégie politique de Hitler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste, hein, cette stratégie politique jusqu'en 1932, et puis nous dire surtout en quoi ce verdict marque une rupture avec cette stratégie?
Oui, alors pour accéder au pouvoir, les nazis, le jeune parti nazi en 1923 a fait ce que l'on sait, c'est-à-dire qu'il a tenté, à l'imitation de la marche sur Rome, une marche sur Munich, avec le putsch de la brasserie du 9 novembre 1923, qui a été un échec. L'échec a été médité par Hitler lors de sa détention, quand il a passé 9 mois en détention à Landsberg. Et lorsque Hitler sort de prison, qu'il reprend les rênes du parti en 1925, il décide d'adopter une stratégie légaliste, c'est-à-dire électoraliste. Le parti nazi prendra le pouvoir, certes, mais ne prendra le pouvoir légalement par la voie des urnes, quitte ensuite, évidemment, il ne s'en cache pas, à transformer l'État de l'intérieur, à le subvertir de l'intérieur, mais la voie d'accès ne sera plus violente, elle sera désormais pacifique et légale. Donc Hitler a eu du mal à imposer cette idée-là, et il a du mal notamment à l'imposer à la SA. La SA, qui a été créée en 1921, qui a été confiée par la suite à un compagnon de la première heure d'Hitler qui s'appelle Ernst Röhm. Mmh. Röhm est quelqu'un de remuant et quelqu'un qui estime qu'il faut tenter le putsch et qui est d'autant plus affermi dans cette idée-là qu'il s'aperçoit que le fonctionnement parlementaire de la République de Weimar n'est plus. Depuis 1930, Hindenburg ne gouverne plus avec le Reichstag, mais gouverne grâce à l'article 48 de la Constitution qui permet au président de gouverner par décret-loi, par ordonnance présidentielle. Dans un fonctionnement, si vous voulez, démocratique, parlementaire, libéral, normal, Hitler aurait été appelé par le président Hindenburg à la chancellerie. Ce n'est pas le cas. Ce que voyant, les chefs de la SA admettent de moins en moins la stratégie légaliste d'Hitler qui décide malgré tout d'attendre, et les chefs SA sont d'autant moins d'accord avec Hitler que la base de la SA remue. Mmh. Et la base de la SA semble prête au coup de force, puisqu'elle s'illustre chaque jour, hein, dans les rues des villes allemandes par des coups de main contre les sociodémocrates et contre les communistes. Et quand les 5 meurtriers, 5 assassins de Potempa sont condamnés à mort, Röhm dit très clairement à Hitler qu'il ne va plus pouvoir contenir ses troupes. Face à l'échec de la stratégie légaliste et face à la condamnation à mort de 5 de leurs camarades, il est possible que les SA perdent leur calme et bascule dans l'action violente. Pour éviter d'être doublé par ce mouvement-là, Hitler réagit comme réagissent très classiquement les chefs lorsqu'ils veulent éviter d'être débordés par un mouvement. Il en prend la tête. Il en prend la tête en publiant le 22 août 1932 dans les colonnes du Völkischer Beobachter, donc du quotidien du parti nazi, deux choses. Premièrement, un télégramme adressé, donc une lettre ouverte, un télégramme adressé à von Papen, le chancelier, pour demander la cassation du jugement, et par ailleurs, une proclamation adressée aux membres du parti nazi, aux membres de la SA, où Hitler dit très clairement que si l'État ne revient pas sur la condamnation de 5 héros allemands, puisque ces SA, qui sont de l'âge d'assassins, sont considérés comme des héros de guerre, qui n'ont pas assassiné quelqu'un, mais qui ont fait justice au peuple allemand en abattant un communiste d'origine polonaise, si donc l'État ne commue pas la peine à minima ou ne gracie pas les assassins, Hitler ne répond plus de rien.
Et donc vous parlez à ce moment-là d'une véritable déclaration de guerre en fait à la République de Weimar par Hitler et puis la campagne de soutien à ces assassins qui s'ensuit. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelle nouvelle conception du droit les nationaux-socialistes expriment donc à l'occasion de cette campagne de soutien?
Les nazis font mine de présenter cet assassinat comme un acte de guerre, puisque dans la presse nazie, le militant communiste qui a été assassiné est présenté donc évidemment comme communiste, donc comme de facto et par définition étranger à la communauté nationale, puisque les communistes sont internationalistes et donc sont antinationaux. Et par ailleurs, il est présenté comme étant un insurgent. Et ce mot désigne les combattants polonais des guerres germano-polonaises de 1919-1921, ces trois insurrections polonaises qui ont disputé à l'Allemagne les territoires de la Silésie. Rien ne prouve, à vrai dire, que le malheureux Konrad Pitzur ait été un combattant en 1919-1921, mais bon, en tout cas, c'est affirmé par les nazis. Donc, les SA, qui par ailleurs eux-mêmes sont présentés comme des vétérans de la Grande Guerre, ce qu'ils sont en partie, et des vétérans des corps francs qui ont combattu les Polonais en 1921, ces SA sont des héros de guerre, sont des combattants qui, encore une fois, n'ont pas assassiné quelqu'un, mais qui ont combattu sur le champ d'honneur un ennemi de l'Allemagne et de la nation allemande. Et c'est intéressant parce que cet événement permet aux nazis de défendre dans les colonnes de leur propre presse leur conception du droit qu'ils présentent comme un droit martial, comme une loi martiale. Le droit commun n'existe pas. Ce qui règne, les principes juridiques qui doivent régner, c'est ceux d'une loi martiale puisqu'il existe une guerre, toujours déjà déclarée, une guerre permanente entre l'Allemagne et les ennemis de l'Allemagne.
D'accord, donc c'est en fait une sorte de droit de guerre hein, qui se substituerait en fait au principe de l'état de droit.
Parfaitement, d'autant plus que les principes fondamentaux du droit de la République de Weimar, qui est une république parlementaire, libérale, avec une déclaration des droits très avancée, ces principes-là, c'est-à-dire l'égalité entre les individus notamment, sont réfutés par les nazis, pour lesquels la notion même d'égalité entre les individus n'a pas de sens, la notion même de sujet de droit n'a pas de sens, la notion d'universalité du droit n'a pas de sens non plus. Dans le cas d'une doctrine raciste conséquente, il n'y a pas d'universalité parce qu'il n'y a pas d'humanité.
Oh,
Retour dans Panthère Rouge sur Radio Campus avec l'interview de l'historien Johan Chapoutot.
Face à cette mobilisation des nazis pour soutenir les assassins, quelle réponse est apportée par le pouvoir républicain ?
C'est là qu'on on tourne au tragique pour la République de Weimar, c'est que le chancelier Papen, face à la violence politique, avait décidé d'autoriser à nouveau les SA et les SS qui avaient été interdits par son prédécesseur, le chancelier Brüning. Bon. Pour amadouer les nazis, Papen a autorisé à nouveau les SA et les SS. Erreur tragique, puisque SA et SS ont semé la terreur lors du mois de juillet 1932 pendant la campagne électorale. Voyant cela et voyant son erreur, Papen a décidé de réagir, notamment en prenant une ordonnance du 9 août 1932, qui institue pour les crimes à motif politique une cour spéciale et dont le verdict est insusceptible d'appel. Donc c'est un premier, un dernier niveau de juridiction. Les premiers à tomber sous le coup de cette ordonnance et de cette juridiction spéciale, ce sont les SA de la ville du bourg de Potemkin qui ont assassiné pour un motif politique un communiste. Mais face à la pression du parti nazi et sachant que la légalité républicaine et l'État peuvent être menacés par un coup de force nazi, Papen décide de commuer la peine des condamnés à mort en détention le 2 septembre 1932. Et ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que le débat se fait sur le point suivant. Peut-on condamner à mort sur le fondement d'une ordonnance prise le 9 août 1932 des gens qui ont commis un crime dans la nuit du 9 au 10 août 1932, donc qui n'avaient pas connaissance de cette ordonnance. C'est-à-dire qu'au nom des principes fondamentaux du droit, on va commuer la peine de gens qui appartiennent à un mouvement qui, très ouvertement, foule aux pieds les principes fondamentaux du droit.
Donc c'est une sorte d'abdication, en fait, qui signale finalement la mort de la République de Weimar.
Alors, c'est une date possible pour relire à nouveau frais, si vous voulez, la fin de la République de Weimar. Alors, bon, pour la fin de la République de Weimar, on a souvent en tête le 30 juillet 1933, l'événement politique par excellence, la nomination d'Hitler à la chancellerie. Mais on peut adopter d'autres chronologies. Là, ce serait une chronologie juridico-culturelle, si vous voulez, qui insisterait sur cet événement d'août 1932. Il y a des chronologies plus constitutionnalistes ou plus politiques, comme le mois de mars 1930, le moment où on bascule d'une démocratie parlementaire libérale classique vers un régime présidentiel.
D'accord. Et alors justement, ma dernière question a trait à votre intérêt finalement pour cet événement. Alors, est-ce que vous avez ouvert un dossier ignoré par les historiens français ou les historiens allemands ? Et pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé particulièrement donc à cet assassinat ?
Le fait et l'événement ne sont pas ignorés des historiens allemands, ni même des contemporains, puisque moi ce qui m'a frappé, c'est en parcourant en fait à l'origine la presse de cet été 1932, c'est de voir que malgré le déferlement de violence qui a accompagné cet été politique et électoral, l'affaire de Potempa a intéressé la presse allemande. Les contemporains y ont vu très vite une rupture. Très vite, quelque chose qui signalait un changement de cap dans la politique du parti nazi, et également un événement intéressant, tout simplement, la civilisation européenne, puisque on avait désormais, on était face à des gens qui violaient ouvertement le droit, et qui, non contents de violer le droit, faisaient la promotion d'un autre droit, non seulement en discours, mais également en acte. Cet événement, donc, qui a été appréhendé comme important par les contemporains, a intéressé les historiens. Bon, j'ai pas découvert quelque chose, puisque la chose était connue également des spécialistes français du nazisme et de la République de Weimar. Mais par contre, j'y ai accordé une importance, un intérêt particulier, parce que ça me permettait, à partir d'un événement, d'opérer une lecture d'histoire culturelle et politique, non seulement du nazisme, mais également de la République de Weimar, et peut-être même au-delà de toute démocratie, au fond.
Je vous remercie beaucoup, Johan Chapoutot, et puis je conseille vivement la lecture de votre livre.
Merci à vous.
L'émission Panthère Rouge, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison. Alors, que peut-on en retenir ?
Alors, premièrement, on a vu Christophe qui est délégué syndical dans une clinique à Clermont. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Que les fonds d'investissement se cachent derrière nos cliniques, qu'ils gèrent les cliniques pour une bonne cause, l'argent. Pour eux, la sécurité sociale, c'est une poule aux œufs d'or et les salariés ne sont que des charges. Mais eux ne sont pas d'accord. On a vu une grève très ferme, très forte, et ce n'est sûrement pas fini.
Bien, et puis alors, du côté de l'histoire, eh bien, ce qu'on peut en retenir, c'est que les bouquins d'histoire, ça peut être chouette, intéressant, et puis contrairement à l'idée commune qui est que finalement c'est le passé qui éclaire le présent, on peut dire aussi que les questions du présent, elles posent des questions au passé, et donc on peut acheter ou emprunter à Bibliothèque Clermontoise le petit bouquin de Johan Chapoutot.
Donc tu peux rappeler le titre ?
Donc le titre c'est La République, le meurtre de Weimar aux éditions donc des Presses universitaires de France, et on mettra toutes les références sur le blog de l'émission, donc sur Arte Radio. Alors dans l'agenda cette semaine, eh bien au Rio, donc au cinéma Le Rio, on peut voir des films sur l'Afrique du Sud, Coupe du Monde oblige, notamment Comeback Africa et Triomphe, donc qui sont encore visibles demain et après-demain. Et puis surtout, n'oubliez pas donc ce soir une soirée de soutien aux grévistes, donc des cliniques privées à 20h à la Maison du Peuple, avec des concerts donc de Tronche de Vie et de Windsor. Et nous, donc on a écouté aujourd'hui
On a entrecoupé nos propos par quelques morceaux musicaux, donc notamment la chanson des Canuts de François Dumont-Daillaud. On a écouté également Jazz Cora Jazz Trio, Beyrouth, et nous écoutons tout de suite Electric Gypsyland.
Alors, on remercie bien sûr Christophe, donc délégué syndical d'une clinique de Clermont, et puis Johan Chapoutot. Et puisque c'est la dernière émission, on va en profiter aussi pour remercier tous nos invités donc, de cette saison qui nous ont fait le plaisir de venir ou d'être interviewés au bout
téléphone.
Du fil. Voilà.
Alors, notamment, il y avait François Chenet,
Céline Porcheron,
Pierre Cornu,
Salima,
Julien Salingue,
Bernard Fri,
les animateurs du collectif Ni Pauvre Ni Soumis,
Ophir Raoul Grazier,
Christian de la société Louise Michel,
Georges Bollon,
Hélène Bertrand,
Pascal d'EDF,
les organisateurs du festival Traces de Vie,
Jackie Chabrol,
Sandrine Redersdorf,
Biro Bani
et Statis Kouvelakis, que vous pouvez réécouter bien sûr sur notre blog audioblog.arteradio.com/panthèrerouge.
Voilà, si on vous manque trop pendant les vacances. Et puis on fait donc un petit clin d'œil aussi aux chroniqueurs qui sont passés par l'émission,
notamment Claire,
JM,
Jean,
Manon,
Clément
et Mickaël
Loï.
Bien,
donc cette émission a été réalisée par Cécile, Lise et Raph aux manettes. Et donc nous, un dernier bon plan, en fait, vendredi, on fait un pot, un apéro Panthère Rouge, c'est au Brinzing à 19h, rue de la Traille à Clermont-Ferrand, vous êtes tous invités.
Voilà, et puis eh bien, sinon on se retrouve à la rentrée, et puis d'ici là, ne lâchez rien.